Pop-pop-pienne et tous les autres aussi, bonjour. Les nouvelles sont mauvaises d'où qu'elles viennent, comme le chante si bien mon Suisse préféré Stéphane Eicher. Le réchauffement climatique se décline dans les rues, les invectives gagnent en puissance, le ton monte, comme on dit, comme le niveau de la mer d'ailleurs. Bref, c'est pas Noël tous les jours. Le monde, comme il va, mal donc, se rappelle chaque jour à notre bon souvenir, mais il n'est pas interdit de s'offrir ici et là des petites parenthèses régressives, histoire de reprendre un peu notre souffle. En allant au cinéma par exemple, puisque ce ne sont pas les propositions qui manquent en ce moment. Il y en a pour tous les goûts. Et les grands enfants que nous sommes, amateurs de pop culture, ont par exemple senti leur cœur battre un peu plus vite, en découvrant sur les écrans il y a une semaine un nouveau volet du Jumanji, ce jeu de rôle qui marqua si profondément les années 90, notamment grâce au si génial et si regretté Robin Williams. Le Jumanji vit sa vie donc dans des jungles hostiles, avec notamment Jack Black au casting. Et bien évidemment, nous ne pouvions laisser passer un tel énergumène dans nos eaux territoriales sans le harponner aussi sec. Voilà de quoi remonter le moral au plus neurasthénique d'entre vous. Jack Black est l'invité de Pop Pop Pop.
France Inter. Pop Pop Pop.
Et à mes côtés, une grande enfant, amatrice de pop culture. Bonjour mon enfant, bonjour Charline.
Bonjour Antoine.
Et c'est grâce à vous que nous avons pu remonter Mr. Black dans nos filets. Soyez-en remerciés.
Oh bah c'est moi qui vous remercie.
Mais non, j'insiste. Au menu de Pop Pop Pop, une excursion en procrastination avec Guillaume Prodovnitch, le réalisateur d'une web-série consacrée à la procrastination. Justement, ce sera...
Ça va être très périlleux d'enchaîner les deux.
Et avant ça, quand Jack Black est au micro de Pop Pop Pop, on n'attend pas demain pour lui poser la question du jour. Et cette question, c'est évidemment...
Jack Black, what is it for you, the pop culture?
Alors attendez, qu'est-ce que, pour être totalement honnête, j'ai eu des réponses jackisées, blackisantes et même jumangiesques. Et parmi mes préférées, il y a celle de Michel Gondry, le réalisateur de Soyez sympa rembobiné, film avec un certain Jack Black.
Qu'est-ce qu'il y a autour de moi, ce qui m'a permis de gagner ma vie plutôt bien, sans avoir trop travaillé à l'école, parce que voilà, avec mes parents étaient dans la pop culture et les enfants se sont retrouvés dans la pop culture, et comme la société s'est retrouvée dans la pop culture, on était préparés à évoluer dans la pop culture.
Et pour vous, Jack Black, what is it, the pop culture it is?
The definition of pop culture,
eh bien,
is popular.
La pop culture, c'est en fait la culture populaire, voilà.
You know, if you, as
par
a
exemple,
individual,
si
go viral,
en tant qu'individu, si vous êtes viral sur les réseaux sociaux, s'il y a des millions de gens qui vous suivent, qui veulent savoir ce que vous faites, culture, et bien vous faites partie de la pop culture, c'est tout simple.
La pop, la culture et la pop culture, on en parle dans la suite de Pop Pop Pop, juste après une pépite pop, It Might Be Time, cet extrait du prochain album de Tame Impala qui arrivera en février prochain. Et mon petit doigt qui parle me dit que le leader sera prochainement dans Pop Pop Pop. It Might Be Time, cet extrait de The Slow Rush, le quatrième et très attendu album de Tame Impala. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes aujourd'hui avec Zeke, le tigre de l'âge de glace.
What a mall!
Mais pas seulement, la preuve avec son pop portrait. Alors oui, son pop portrait, ben c'est son portrait, mais... c'est signé Charlie Neron.
Aujourd'hui, un invité de type emballant, hilarant et survolté, membre du Frat Pack, la version rigolote du groupe autrefois formé par Sinatra et ses copains. Sauf que ceux du groupe de notre invité, de copains, s'appellent Will Ferrell, Steve Carell, les frères Wilson, Vince Vaughn ou encore Ben Stiller, qui a d'ailleurs dirigé notre invité dans Tropic Thunder et Disjoncté. Il a donné de la voix dans School of Rock en professeur peu orthodoxe, on a croisé sa drôle de silhouette dans High Fidelity d'après Hornby. Il fait de la musique avec son groupe Tenacious D, a joué les réals mégalo face à un très gros singe dans le King Kong de Peter Jackson. Il a fait des horreurs comme il se doit chez les frères Farelli, il a suédé des films chez Michel Gondry dans Soyez sympa rembobiné. Il est aussi crédible en catcheur mexicain dans Supernacho qu'en personnage de rom-com dans The Holiday. Il prête aussi sa voix à Po, le héros de Kung Fu Panda, et revient aujourd'hui en avatar de jeux vidéo dans Jumanji. Jack Black sait lire les cartes et il est dans Pop Pop Pop.
Jack Black est dans Pop 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 et inversement, c'est un événement pop. Et que fait-on avec un monstre pop? Eh bien, on parle de pop, la preuve avec sa popliste. Pop. Nous vous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique, une série culte. On commence, Jack Black, avec votre livre. Quel est-il?
Cult suggests that it's not.
Alors, quand vous dites culte, on se dit qualité, mais pas forcément grand public, quelque chose qui me plaît à moi simplement. Or, moi, les livres que j'aime, ben, justement, ils ont un grand public. Pour autant, il y a un artiste, du nom de Daniel Klaus. Daniel Klaus a fait une BD dans les années 90, dans les années 2000 aussi d'ailleurs. La série s'appelait 8-Ball. Dans cette série, il y avait une histoire intitulée Like a Velvet Glove Cast in Iron. La main de fer dans le gant de velours. Complètement dingue. C'est comme si David Lynch avait fait une BD. C'est un classique intemporel.
Jack Black, pour le film, vous avez choisi MacGruber. C'est réalisé par Jorma Taccone. C'est sorti sur les écrans en 2010. Enfin, sauf en France, puisque le film n'est pas sorti en salle ni en DVD. Du coup, je suis très intrigué. Charline, que faire pour que je le sois ce moins?
Peut-être que je vous donne des infos éventuellement. MacGruber, presque comme son nom l'indique, est l'adaptation ciné d'un sketch de l'émission Saturday Night Live qui parodiait la série télévisée MacGyver. Alors, pour ce qui est de l'intrigue, MacGruber a pris sa retraite en tant que moine en Équateur après l'assassinat de sa fiancée. Mais il est appelé par un colonel qui a besoin de lui pour sauver son pays et dans cet extrait, il vous explique par exemple comment créer une diversion lors d'une fusillade avec un simple morceau de céleri et une partie secrète de votre anatomie.
Je te donne un conseil. Quand tu sors le vieux truc du céleri, il faut que tu insères le bout large. On est porté à faire l'inverse. Mais si tu insères le bout mince, il glisse et il ressort aussitôt.
Tu perds ton temps. Je vais jamais, jamais faire ce truc-là.
Il faut jamais dire jamais, jamais.
Mais pourquoi ce film, Jack Black?
This movie makes me laugh so hard. That, I wet myself.
Ce film me fait tellement rire que je me pisse dessus à chaque fois. Surtout les scènes de sexe. C'est absolument désopilant. Les bruits qu'il fait au moment de l'orgasme, je ne sais pas comment vous dire, sont absolument impayables. On n'a pas vu un tel génie comique depuis Chaplin. C'est un comédien qui s'appelle Will Forte, qui vient de Saturday Night Live. Bon, il est connu, mais il est vraiment sous-estimé. C'est un vrai génie. Hein.
Passons maintenant à votre série. Vous choisissez The Mighty Boosh, série télévisée britannique créée par Julian Barratt et Noel Fielding, diffusée entre 2004 et 2007 sur la BBC Three. Charline, mettez-moi l'eau à la... Bush.
C'est excellent. Série humoristique, surréaliste et souvent musicale qui met en scène les aventures de Howard Moon et Vince Noir. À chaque saison, un nouveau décor et un nouveau contexte. Dans la saison 1, Vince et Howard sont les gardiens d'un zoo, le Zooniverse. Dans la saison 2, ils sont colocataires dans un appartement londonien. Et dans la saison 3, Vince et Howard sont les employés de la NA Boutique, un magasin d'articles d'occasion.
Come with us now on a journey through time and space. To the world of the Mighty Boosh.
Jack Black, pourquoi cette série en particulier?
Comic genius, once again.
Encore du pur génie comique.
Low budget,
petit budget, chef-d'œuvre artistique, génial. Mighty Boosh.
Et enfin, quelle est votre chanson culte, Jack Black ?
There's a beautiful song by a band called Sebado.
Il y a un groupe du nom de Sebado
called Healthy Sick.
Qui a fait une chanson
so
magnifique. Elle s'appelle Healthy Sick.
No one has
douloureusement
heard it.
Magnifique.
If you can find
personne
it,
ne l'a jamais entendu.
Congratulations.
Si vous la trouvez, you've félicitations. Vous aurez découvert un chef-d'œuvre.
No one can stop it all from crashing down to shit. Push to feel something more than just the sound of it. Time, time is the magic truth of story. Sometimes magic is so very, very boring.
Healthy Sick du groupe Sebado, le choix musical de Jack Black aujourd'hui dans Pop Pop Pop. Alors je résume, Daniel Close, Mac Grubber, The Mighty Boosh et Sebado. Je mets tout ça dans mon mixeur de pop culture et ça donne ça.
Je te donne un conseil. Quand tu sors le vieux truc du céleri, il faut que tu insères le bout large.
Jamais, jamais faire ce truc-là.
Il faut jamais. Dire jamais, jamais.
Jack Black est acteur, producteur, compositeur, scénariste et chanteur. La preuve avec son groupe Tenacious D et le morceau Tribute.
This is the greatest and best song in the world. Tribute. Long time ago, me and my brother Kyle here, we was hitchhiking down a long and lonesome road. All of a sudden, there shined a shiny demon in the middle of the road, and he said,
play the best song in the world or I'll eat your soul.
Well, me and Kyle, we looked at each other and we each said, okay. And we played the first thing that came to our heads, just so happened to be song in the world. It was the best song in the world. Look into my eyes and it's easy to see. One and one make two, two and one make three. It was destiny. Once every 100,000 years or so, when the sun doth shine and the moon doth glow and the grass doth grow. Needless to say, the beast was stunned. A whip crack went his rumpy tail, and the beast was done. He asked us,
be you angels?
And we said, nay, we are but men. Rock! And the peculiar thing is this, my friends, the song we sang on that fateful night, it didn't actually sound anything like this song. This is just a tribute. You gotta believe it, and I wish you were there. Just a matter of opinion. Good God, God love you. I'm so surprised to find you can't stop me. I'm fighting really about rich motherfucker.
France Inter. Antoine Decaune
et Charlie Nero. Groupe Jumanji et film sont les premiers résultats qui arrivent quand on tape votre nom sur Google, Jack Black. Et ça tombe bien car revoilà le Jumanji, ce jeu ancien, très immersif, qui propulse les joueurs à l'intérieur même d'un univers extrêmement dangereux. Dans la toute première version filmée avec Robin Williams en 95, c'était un jeu de société. Mais depuis 2017 et le reboot intitulé Bienvenue dans la jungle, le Jumanji est un jeu vidéo. Et les joueurs se retrouvent donc dans la peau d'Avatar, incarné par Dwayne Johnson, Karen Gillan, Kevin Hart et vous, Jack Black. Et dans Jumanji Next Level, c'est reparti pour une partie. Bande annonce.
Elle est où la jungle? C'est nouveau ça? C'était pas du tout prévu tous ces changements.
D'accord, y a un souci là.
Vous auriez pas vu Spencer?
C'est là?
Je crois qu'il y est retourné. Faut aller le chercher.
C'est quoi ce bruit?
Hein? On n'a même pas choisi nos avatars!
Est-ce qu'on est en Floride?
Oh purée!
Attendez! On n'est pas dans les bons corps!
Dans ce Next Level, vous êtes donc un avatar de jeu vidéo nommé Dr. Sheldon, Shelley Oberon, le génie aux formes généreuses doué pour la cartographie, l'archéologie et la paléontologie. Mais n'est-il pas étrange d'incarner un personnage avec lequel les gamers ne veulent pas jouer, hein? N'est-ce pas un vrai cauchemar pour un comédien?
Oui! It is very frustrating.
Mais oui! C'est terriblement frustrant! Pourquoi personne ne veut être dans la peau de Sheldon Oberon? C'est le seul à savoir lire une carte. Dans ce jeu, si on est perdu, si on veut gagner, l'essentiel, c'est de savoir lire une carte. Et pourtant, tout le monde est malheureux à l'idée d'habiter mon personnage. Je vais vous dire, je me suis senti insulté. Je me suis dit, qui a écrit cette merde? Je suis pas si mal comme mec. En plus, moi aussi je suis très souple. Regardez un peu mes high kicks. En fait, je suis l'un des meilleurs personnages dans ce putain de jeu.
Mais grâce à ce film et aux joueurs qui se retrouvent avec votre personnage et donc dans votre peau, vous avez aussi la chance d'incarner un gros costaud et une pom-pom girl, le tout sans changer de peau. Lequel des deux était le plus drôle à jouer?
Oh, the gym guy or the cheerleader?
Ah, le prof de gym ou la pom-pom girl? Je vais vous dire, j'ai adoré les deux rôles. Chacun avait ses particularités. Mais alors, lequel j'ai préféré? Ça, je pourrais pas vous dire. C'est comme choisir entre mes deux enfants. J'aime autant mourir tout de suite. Allez-y, vous pouvez me tuer, là.
Et je dois dire que vous êtes très bon quand vous jouez les adolescentes agaçantes. Comment avez-vous travaillé ce personnage?
Alors, comment je suis entré dans le personnage? Comme dans tous mes personnages. Hein. J'entends sa voix dans ma tête, je m'entraîne, je travaille dur. Hein. Comme pour tous mes personnages, je médite. Je l'attends, je le cherche, et je finis par trouver la jeune adolescente qui vit en moi.
Vous avez aimé être ado d'ailleurs, vous avez la nostalgie de ces années-là?
Mon adolescence n'a pas été facile. Il y avait des choses que j'aimais bien faire au lycée, hein. J'adorais le théâtre. En fait, quand j'y pense, c'était la seule chose que j'aimais au lycée. J'adorais monter sur scène, j'adorais faire des pièces de théâtre. C'était là que je me sentais le plus sûr de moi, que je me sentais le plus apprécié. En fait, c'est marrant. Je me rappelle, je faisais toujours le même rêve quand j'étais ado. Je rêvais que j'étais capable de voler, comme un oiseau, mais uniquement à l'intérieur du théâtre. Dès que je sortais du théâtre, je perdais tous mes pouvoirs et j'étais obligé de marcher. C'est une métaphore plutôt évidente.
L'alchimie entre comédiens a toujours quelque chose de mystérieux et parfois de compliqué à atteindre. Entre The Rock, Karen Gillan et vous, ça match très bien. À quel moment avez-vous réalisé que vos rythmes et styles de jeu s'accordaient si bien?
Excusez-moi, vous pouvez reposer la question, je pensais à mon lycée.
Antoine, vous parlez d'alchimie entre vous et vos partenaires.
Oui, c'est vrai. C'est vrai, une bonne alchimie, ça fait toute la différence. Enfin, en tout cas, c'est très important. Et ça, c'est le rôle du réalisateur. Moi, j'ai su qu'on avait fait quelque chose d'important, d'exceptionnel même, quand j'ai vu le film. Mais pendant le tournage, on espère toujours, mais on ne peut jamais vraiment savoir si le film va marcher ou non. Alors quand j'ai lu le scénario, je me suis dit qu'on avait là quelque chose qui pourrait marcher vraiment, vraiment très fort. Mais en fait, on n'est jamais sûr. Et c'est là toute l'angoisse et tout le mystère du métier.
Dans le film, le jeu Jumanji a une sorte d'intelligence, de conscience propre. Il donne des leçons aux participants. Quelle est, Jack Black, la plus grande leçon que vous ayez apprise lors d'un jeu ?
C'est vrai que Jumanji 2 a sa propre vie, indépendamment de tous les autres Jumanji. C'est un jeu qui a sa propre vie. En fait, moi, ce que j'ai appris ici, c'est que les jeux vidéo peuvent créer une espèce de fureur. Moi-même, je me suis retrouvé dans des prises de tête pas possibles, des prises de tête furieuses, tout ça à cause d'un jeu. Et c'est là qu'il faut être prudent, c'est là qu'il faut apprendre à se maîtriser et à se rappeler que ce n'est qu'un jeu.
Est-ce que vous êtes d'ailleurs un vrai gamer ?
Oui, je me considère encore comme un gamer. Alors, peut-être pas le même geek que j'ai pu être par le passé, mais j'adore les jeux vidéo. En fait, je n'ai plus le temps de m'y consacrer à fond maintenant. En fait, ce qui a empiété sur mon temps de jeu, c'est mon iPhone, parce que je peux passer des heures à jouer dessus. Alors du coup, je suis sur l'iPhone et puis je passe à côté de ma console. Et j'ai même pas terminé Red Dead Redemption 2, tout ça à cause de l'iPhone.
Si vous deviez incarner un autre personnage de jeu vidéo, lequel aurait vos faveurs ?
Alors, je crois savoir qu'il va y avoir un film de Sonic le Hérisson. Donc, ça, c'est déjà fait. Pac-Man, c'est un personnage un peu trop 2D à mon goût, non. Donc, pas très intéressant. Dark Knight, ça me plairait bien. Alors, le Joker a été déjà joué plein de fois par d'excellents acteurs. Alors, il y aurait peut-être à Lara Croft. Non, c'est pareil, ça c'est déjà fait.
Jesus.
Je sais pas trop qui.
Maybe Big Earl.
Je sais.
Toe Jam and Earl.
Big Earl dans Toe Jam and Earl. Ah.
Thank you for asking.
Merci de m'avoir donné l'idée.
Ce sera
mon prochain film.
Toe Jam and Earl.
Toe Jam and Earl. On va faire ça en 2022.
Toe Jam and Earl, ce sont des extraterrestres, les deux plus mauvais rappeurs de l'univers qui ont eu un accident en traversant la galaxie et qui se sont écrasés sur la Terre.
Merci Charline. Alors comme pour le précédent, Jumanji, bienvenue dans la jungle, ce nouveau volet sortira quasiment en même temps qu'un autre mastodonte, soit le nouveau Star Wars. Vous n'êtes pas fatigué d'être à la lutte avec les Jedi?
C'est vrai, le premier épisode est sorti en même temps qu'un Star Wars. À l'époque, on nous a dit qu'on était fous, mais ça a marché. Alors espérons que celui-ci survivra lui aussi à la lutte contre les Jedi. À propos, il y a aussi un enjeu père-fils là-dedans, parce que le père de Jake, c'est Jake Kasdan, notre réalisateur, son père Lawrence, donc, est associé à Star Wars. Ah, alors du coup, il y a un truc, père contre fils, qui l'emportera ? Suspense absolu.
Dwayne Johnson était The Rock, catcheur superstar. Vous avez incarné Super Nacho, lutteur mexicain masqué. Dans un combat officiel WWA, lequel des deux l'emporterait ?
Oh, Nacho wins every time.
Non, Nacho l'emporte à tous les coups.
He has the power of the Lord.
Il a la puissance du Seigneur.
Vous avez d'ailleurs déclaré que vous aimeriez que votre personnage de Super Nacho intègre les Avengers. Votre partenaire de Jumanji, Karen Gillan, en fait déjà partie, puisqu'elle est Nebula. Est-ce que vous lui avez parlé de votre projet ?
I am in talks with Kevin Feige.
Oui, je suis en négociation avec Kevin Feige, le producteur. Et il est d'accord pour que Nacho Libre soit le personnage principal des Avengers. Donc, sortie prévue à l'été 2022.
De School of Rock à Jumanji, en passant par Nacho Libre, High Fidelity, King Kong, The Holiday, or Tropic Thunder, pensez-vous qu'un de ces jours, vous pourrez incarner un vieil homme ordinaire ?
I am going to be a regular old guy.
Mais oui,
right after 2022,
je vais être un vieil homme ordinaire. C'est justement le titre du film suivant, Un vieil homme ordinaire, avec Jack Black, sorti en 2023.
La musique occupe aussi une très grande place dans votre vie, votre carrière. Vous avez joué dans bon nombre de clips, celui des Foo Fighters, de Gorillaz, pour ne citer que. Vous avez incarné un Paul McCartney dans Walk Hard et vous êtes la moitié de l'excellent groupe Tenacious D. Si vous deviez choisir entre musique et ciné, quelle voie prendriez-vous ?
Music is much more fun. than movies.
Alors la musique c'est beaucoup plus sympa que le cinéma comme
métier.
Jouer dans un film, c'est super stressant. Il faut se lever tout le matin, il faut se maquiller, il faut apprendre son texte. Et puis on ne voit pas sa famille pendant des mois. Alors qu'en tournée, en tournée, il n'y a que les concerts. Donc on travaille quoi ? 2 heures de travail par jour au max, quoi. Le reste du temps, on peut glander, on peut jouer à des jeux vidéo et se balader dans des super quartiers. C'est un job plus sympa, mais ça paye moins.
Vous serez d'ailleurs bientôt sur scène avec Tenacious D. Ce sera en février à Paris. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce show ?
We have a rock opera that's all about the end of the world.
Oui, alors on va faire un opéra rock qui parle de quoi ? Qui parle de la fin du monde et de sa survie. Voilà. Alors c'est une comédie musicale post-apocalyptique. C'est un peu comme The Road Warrior. Oui, sauf que The Road Warrior, c'est pas vraiment une comédie musicale. Enfin, en fait, c'est un mélange entre Road Warrior et Hamilton the Musical.
Voilà.
Ou plutôt non, c'est plutôt comme Jésus-Christ Superstar. Voilà.
Vous avez récemment collaboré avec Jack White et le nom de votre super groupe, Jack Black, est évidemment Jack Gray. Y aura-t-il une tournée ?
I'm always ready. For a collaboration with Jack
Alors moi, je suis toujours prêt à travailler avec Jack White.
He's a hero of mine.
Jack White, c'est mon idole. D'ailleurs, on a fait une chanson ensemble sur son label. Son label, c'est Third Man Records.
On iTunes,
disponible sur iTunes et dans les bacs.
Look for it. It's called,
Le titre, c'est Don't Blow It, Cage.
Don't blow a cage, don't blow a cage. Just play the best shit you've ever fucking played. Don't blow a cage, don't blow a cage. Just play the best shit you've ever fucking played. All right.
Don't blow it cage de Jack Gray, c'est-à-dire un mélange de Jack Black et de Jack White. Hein. Merci Jack Black. Jumanji Next Level, c'est dans les salles et le concert de votre groupe Tenacious D, ce sera le 26 février au Zénith de Paris. Break dans ce pop-up pour lancer les news.
Et on reste dans l'univers du jeu vidéo avec la toute première bande-annonce de Free Guy, un film dans lequel Ryan Reynolds incarne un employé de banque solitaire qui découvre qu'il n'est qu'un personnage anonyme dans le vaste monde d'un jeu vidéo nommé Free City.
Is this what recreational drugs feel like?
Guy, this world, it's a video game. And it's full of bad guys.
I'm a rule breaker. I'm a rattle chicka snaker.
We need you to be the good guy.
Is that a Glock in your pocket?
No.
What?
It's 2 Glocks.
So easy.
Free Guy avec Ryan Reynolds et la géniale Jodie Comer, la psychopathe de la série Killing Eve, ça sortira le 1er juillet.
Les enfants sont de merveilleux intervieweurs, en partie parce qu'ils ne sont pas embarrassés de ce qu'on appelle le surmoi. Donc, pas de filtre. C'est l'une des particularités des mini-journalistes choisis par le site Vice Noisy pour interroger Robbie Williams. Voici donc le genre d'échange qu'on peut y entendre.
Why do you want to punch Liam Gallagher?
Well, is there anybody at your school that's a bit of a bully?
Yeah.
I suppose if somebody's bullying you, what do you do?
I tell a teacher.
I'm a grown-up. Who thinks that the Gallaghers are bullies and there's no teachers, so what do you do?
Punch him!
There you go.
Voilà pourquoi il veut latter Liam Gallagher. Et on vous met évidemment la vidéo dans son intégralité sur la page de Pop-Up-Up sur franceinter.fr.
La belle, très belle reprise du jour est signée Courtney Barnett, remarquable chanteuse et guitariste de Melbourne qui s'est livrée à l'exercice culte du concert Unplugged pour MTV. Elle en a profité pour reprendre le So Long Marianne de Leonard Cohen.
Now so long.
Et l'album Unplugged de Courtney Barnett est désormais dispo.
France Inter. Pop-Pop-Pop. Antoine Decaune.
Reverse is miserable.
Liam Gallagher.
Mais oui, bravo Charline. Oh, vous m'épatez de plus en plus chaque jour. Dans la suite de Pop-Pop-Pop, on va parler de procrastination. À moins qu'on ne le fasse demain.
C'est excellent.
Bien, en attendant, on écoute Nekfeu featuring Vanessa Paradis dans l'univers.
«
dans l'univers, y a des milliards de vies sur Terre, 7 milliards d'êtres humains, peut-être 3 milliards de filles, mais c'est toi que je veux.
T'es obsédé par le vide et je déteste ton mode de vie. Et puis tata par le vice, mais c'est toi que je veux.
Y'en a plein, mais y'en a qu'une, c'est toi.
Je sais des choses que tu ne sais pas.
Je sais qu'on serait même pas heureux ensemble.
Nous sommes de ceux que la rancune sait pas.
Dans l'univers, y'a des milliards de vies sur Terre, 7 milliards d'êtres humains, peut-être 3 milliards de filles, mais c'est toi que je veux. T'es obsédé par le vide et je déteste ton mode de vie. Et puis t'as ta part de vice, mais c'est toi que je veux. Y'en a plein, mais y'en a qu'une, c'est toi.
Je sais des choses que tu ne sais pas.
Je sais qu'on serait même pas heureux ensemble.
Nous sommes de ceux que la rancune sait pas.
Et même si notre amour raté devait renaître demain, elle m'a dit jamais je ne remettrai mon cœur entre tes mains. Jamais, jamais, n'oublie pas que quand tu l'avais, tu ne m'as laissé que du mal-être et des marques. On était jeunes, on pensait que s'aimer c'était se traiter mal. Pourtant dans l'univers y'a des milliards de vies sur Terre, 7 milliards d'êtres humains, peut-être 3 milliards de filles, mais c'est toi que je veux. T'es obsédé par le vide et je déteste ton mode de vie. Et puis t'as ta part de vice, mais c'est toi que je veux. Y'en a plein, mais y'en a qu'une, c'est toi.
Je sais les choses que tu ne sais pas.
Je sais qu'on serait même pas heureux ensemble.
Nous sommes de ceux que la rancune ne sait pas.
On se dégoûte, on se combat jusqu'à ce qu'on bouffe les pissenlits. Notre couple succomba, ce désir puissant puis s'ennuie. Et le désir disparaît en même temps que la possession. Et les femmes de ma vie défilent en une étrange procession. J'y passerai seule la nuit sous le trait d'un jeune homme entier. Quand la lune dort, le soleil lui, moi je ne vois qu'elle. Y'a des milliards de vies sur Terre, 7 milliards d'êtres humains, peut-être 3 milliards de filles, mais c'est toi que je veux. T'es obsédé par le vide et je déteste ton mode de vie. Et puis t'as ta part de vice, mais c'est toi que je veux. Y'en a plein, mais y'en a qu'une, c'est toi.
Je sais les choses que tu ne sais pas.
Je sais qu'on serait même pas heureux ensemble.
Nous sommes de ceux que la rancune sait pas.
Nos cœurs unis par cette danse que ta lumière peut apprendre à mon ombre. Un jour tu me donneras ton oui et tu prendras mon nom. Un jour tu me donneras ton oui et tu prendras mon nom.
Dans l'univers, Nec, Feu, Vanessa Paradis, cet extrait des étoiles vagabondes. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et notre deuxième invité est documentariste. Bonjour, Guillaume Podrovnik. Je l'ai bien prononcé ?
Oui, très bien.
Au début, j'ai dit Podrovnik.
Mais je ne sais pas comment on le prononce. C'est un punk polonais qui m'a baptisé comme ça. Je n'ai aucune idée.
C'est difficile. Alors, rappelez-nous ce qu'est la procrastination, s'il vous plaît, là, maintenant, tout de suite.
La procrastination, oui. C'est remettre à demain ce qu'on doit faire le jour même, a priori.
D'accord.
Après, ça peut être plus que demain. Hein. On peut pousser sur une semaine, un an, ça dépend de la tâche, en fait.
Une vie. Alors, vous consacrez donc une série de courts documentaires à la procrastination. C'est une décision que vous avez prise après avoir mûrement réfléchi ou sur une impulsion?
J'ai pas du tout réfléchi. C'est juste que Arte m'a demandé de faire. Enfin, on peut pas procrastiner sur la procrastination. Donc, ça s'est annulé. J'étais obligé de le faire.
Alors, on verra demain Excursion en procrastination. Ce sont 7 épisodes de 9 minutes et c'est en ligne sur arte.tv. Mise en bouche.
Commençons par le commencement. On pense que la procrastination est un trait caractéristique de notre époque. Mais l'aube de l'humanité n'avait-elle pas déjà été repoussée au lendemain ? Dieu dit, et la lumière fut. Ce fut le premier jour. Dieu eut sa période bleue, ce fut le deuxième jour. Tiens, je vais rajouter du vert.
Ce fut le troisième jour. Je vais moucheter tout ça, un peu à la Jackson Pollock. Ce fut le quatrième jour. Un peu de mouvement, faut dynamiser. Ce fut le cinquième jour. Et si je rajoutais des trucs rigolos? On était en fin d'après-midi et Dieu était toujours à fond. Il créa l'homme et la femme et leur dit « Soyez féconds, multipliez, ça tombe bien, c'est samedi soir. » Dieu admira sa création toute la nuit au lieu d'aller se coucher. Au septième jour, Dieu était dans le gaz et se demanda si c'était vraiment capital d'ouvrir le dimanche. Dieu dit « Oh et puis merde, je me recouche. Le reste, on verra demain. » La procrastination était née.
Donc si je comprends bien, Dieu est le premier procrastinateur.
Ben, je pense, mais en fait, il y a un problème dans la communication d'Arte. Ils ont dit que c'était une série documentaire. Moi, j'avais mis une série vaguement documentaire. Ils ont enlevé le vaguement, ils trouvaient que ça ne faisait pas sérieux. Mais personnellement, je ne pense pas que ça soit si documentaire
mais
que
là,
ça.
Mais là, vous avez procrastiné, vous n'avez pas répondu à ma question, par exemple. Oui. Dieu est-il le premier procrastinateur?
Ben, si, en Occident, peut-être, ou dans la culture judéo-chrétienne. Personnellement, moi, ce n'est pas tellement mon truc, mais... en fait, moi, ça fait 2 ans que je fais une bande dessinée sur Sisyphe, le procrastinateur qui monte pas son rocher. Donc, pour moi, c'est plutôt Sisyphe que Dieu.
Est-ce que vous êtes du genre à faire des to-do list? Et est-ce que c'est vraiment un truc de procrastinateur? Je l'avais pas envisagé comme ça. Moi, je pensais que c'était vraiment pour être ordonné, mais en fait, c'est aussi un bon moyen de repousser.
Oui, bien sûr. Bah, il y a John Perry, qui est le maître de la procrastination absolue, qui, dans la série, explique que ce qu'il faut, c'est mettre en haut de sa to-do list des trucs qui sont vraiment super faciles à faire. Comme ça avance pas du tout. Ça sert absolument à rien.
Sans indiscrétion, pouvez-vous nous expliquer pourquoi ce sujet vous touche tant, personnellement, et si vous lui trouvez une valeur universelle?
Pourquoi ce sujet me touche tant? Je pense parce que, en fait, moi, j'ai d'abord été dessinateur, après j'ai fait de la radio, après j'ai fait de la télé. Donc, c'est vraiment le truc absolument parfait pour procrastiner, puisque on a toujours quelque chose d'autre à faire que ce qu'on est censé faire. Donc, oui, je pense que j'ai un vrai trait comme ça. Dès que je dois faire un film, je me mets à faire des dessins. Mm-hmm. Dès que je dois dessiner, je me mets à faire un film. Donc,
enfin, vous y arrivez quand même.
Oui, j'y arrive. Mais alors, le tout, c'est de bien s'entourer, en fait. D'être avec moi, le monteur de mes films n'est pas du tout procrastinateur. Il me torture tous les jours.
Mais si on doit parler du quotidien, à l'heure du tout numérique et des livraisons à domicile en temps record, est-ce que c'est si facile que ça de procrastiner?
Ben, je crois que c'est de moins en moins facile de Déjà, je pense qu'il faut distinguer. Il faut distinguer. Pour moi, il y a deux grands types de procrastinateurs. C'est-à-dire qu'il y a le procrastinateur dandy, donc c'est nous, quoi. Enfin, pas tout le monde, mais en fait, c'est parce que c'est sympa d'être en terrasse de café à pas réussir à finir d'écrire son script pour Netflix. Mais ça, c'est rigolo, mais c'est pas très grave. Et je pense qu'il y a le procrastinateur que je dirais aliéné. C'est-à-dire que on est dans une société dure où le travail, beaucoup de gens souffrent au travail, et s'ils procrastinent, c'est pas pour pas. C'est parce que ça les emmerde et parce que ils n'ont pas le luxe de faire quelque chose d'épanouissant dans leur vie.
C'est là que se situe pour vous, Guillaume Potrovnik, la frontière entre glandeur et procrastinateur?
Bah, pour ce type de procrastinateur, oui, parce que je pense que, comme le dit Florent Oiseau, un écrivain dans la série, c'est un peu un cache, ça peut être un cache-misère. Mm-hmm. Pour pas s'avouer qu'on aime pas sa vie, on va dire oh bah juste j'aime pas ce que j'ai à faire dans l'instant. Donc dans ce cas-là, pour moi c'est pas de la glande, c'est pas de la... Et de toute façon même la flemme, je veux dire on peut pas prendre ça d'une manière générique, c'est la flemme de quoi? Parce que avoir la flemme de ranger la vaisselle, tout le monde l'a, c'est chiant, on pas envie de le faire.
Charlie il aime bien.
Tous les jours. Ah oh, ouais, laissez-moi, je veux le faire.
Il y a des gens qui ont comme ça des perversités pathologiques.
Il y en a d'autres.
Mais voilà, donc à partir si on a la flemme parce qu'on ce qu'on a à faire est pénible, ça me paraît assez sain en fait.
Vous le rappeliez il y a quelques instants, vous en avez déjà fait un album en 2017, qui avait pour titre Sisyphe le procrastinateur, c'est de la BD. Est-ce qu'on peut donc parler de fixation monomaniaque en ce qui vous concerne?
Non, je pense que en fait ça fait rire les gens autour de moi et que c'est eux qui font une fixation monomaniaque qui me demandent que des choses là-dessus parce que moi...
Ah non mais c'est étrange.
Oui c'est assez étrange, mais c'est-à-dire que quand je me suis dit tiens je vais faire Sisyphe qui trouve toujours une excuse pour pas monter son rocher, je me suis dit je vais en faire 5... Je trouverais pas plus. En fait, ça fait rigoler d'abord mes copains, puis plus d'autres gens. Donc, j'en suis à 700. Et
c'est devenu expert maintenant.
Bah, là, ça devient vraiment de la procrastination pour moi. C'est-à-dire que dès que je dois faire quelque chose de sérieux, je peux toujours dire que je vais. Non, parce qu'il faut que je fasse Sisyphe.
Est-ce que ça rend vraiment improductif d'être procrastinateur ou est-ce que ça peut permettre aussi de donner un élan?
Oui, tout à fait. Non,
moi, c'est ce que
pas.
Je me dis. Hein,
oui,
bah,
c'est ce que John Perry appelle les procrastinateurs structurés. C'est-à-dire que, en fait, au lieu de faire ce qu'on a à faire, on fait autre chose. Mais du coup, on peut être très productif. Et puis, dans le cadre, quand on est dans la création artistique, etc., c'est aussi des fois, on peut le confondre aussi avec une période de maturation. Bon, des fois, il faut dire, bon, là, ça suffit, là.
Ça fait un an et demi que je mature.
Mais en même temps, c'est aussi important.
Oui, mais consacrer autant de temps à la procrastination, est-ce que c'est pas paradoxal?
Ah, c'est complètement paradoxal.
D'accord.
Oui, oui, tout à fait. Okay. Non, non, je suis un imposteur fini. Maintenant, c'est.
Ah non, j'ai
c'est
pas terminé. Dit ça.
Ah, bah, si.
Non, non, pas du tout. Pas du tout. Vous êtes un homme de paradoxe.
J'ai une question de la plus haute importance. À quoi servent les dimanches?
À quoi servent les dimanches?
Bah ouais, ça m'a évoqué cette question en regardant les épisodes. À quoi servent les dimanches? Parce que si on regarde le premier épisode, bon, bah, c'est.
Ouais.
Bah, je et crois par que la suite aussi.
Bah, je crois que les dimanches servent à angoisser en se disant qu'on a encore jusqu'à minuit et que, mais que là, il va falloir vraiment faire quelque chose.
Ouais.
Bah, c'est le poulet et le déjeuner avec la grand-mère. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est vachement utile le dimanche, nuit.
Quand on a un poulet et une grand-mère, en tout cas.
Quand on a un poulet et une grand-mère. Ouais.
Guillaume Podrovnik, attention, alerte rouge, j'ouvre la porte au cliché avec la question qui arrive. Est-ce qu'on procrastine autant au nord qu'au sud?
Alors, comment...
Allez-y.
Personnellement, j'ai vécu 7 ans à Hong Kong.
Ouais. Non, je vous parle du sud.
du sud de la France.
Oui.
Personnellement, je procrastine pas mal dans le sud. Là, j'en reviens juste.
Et, la Corse, par exemple. On n'a pas la nommer.
Ouais, je pense qu'on procrastine plus... disons que on fait moins semblant d'être suroccupé.
Oui.
Ouais, c'est ça. Parce que là, je suis rentré à Paris depuis une semaine. Mm-hmm. Je pense pas que les gens en fassent plus que là où j'étais dans le Gard. Mais par contre, ils font super bien semblant d'avoir des trucs à faire.
Alors, ce qui est très rassurant avec vos documentaires, enfin, pardonnez-moi, je vais passer des documentaires, c'est de découvrir, grâce à vous, que les plus grands génies, Vinci, Hugo, Mozart, pour ne citer qu'eux, étaient d'immenses procrastinateurs. Ça veut dire quoi? Que ça laisse un peu d'espoir?
Ah, bah oui, complètement, ouais. Mm-hmm. Mais là, je pense que ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur le processus de maturation aussi. Je pense que, effectivement, je suis sûr que Léonard de Vinci, qui a même à la fin de sa vie déploré avoir eu ce trait, parce que même la Joconde, rien n'est terminé. Mais en même temps, peut-être qu'il n'aurait pas inventé l'hélicoptère, sinon, parce que c'est vraiment le truc idiot qui sert à rien à la Renaissance.
On apprend dans votre web-série que l'animal totem de la procrastination, c'est une icône de la pop culture, puisque c'est lui. Ben oui, le petit chaton. C'est lui qui vous fait procrastiner le plus en regardant des vidéos de chatons qui jouent au piano ou qui sont dans des jacuzzis avec des rondelles de concombre sur les yeux peut-être?
Moi je regarde surtout le mien et donc je regarde plutôt des vidéos de pigeons pour voir si ça l'amuse. Mais ça revient au même.
Ah non mais là vous doublez la dose d'inactivité parce que
exactement.
Déjà regarder un chat c'est extrêmement chronophage mais regarder un chat qui regarde un truc là,
enfin,
vous avez quand même poussé l'art.
Oui, très très loin.
Guillaume Podrovnik, en conclusion, la procrastination c'est de la pop culture.
Ah oui, bien sûr.
On est à fond dedans.
De toute façon, pour regarder autant de séries, faire du binge-watching, etc., ça veut dire qu'il faut quand même une armée de procrastinateurs derrière pour faire fonctionner cette industrie.
Et une armée qui nous écoute. Merci Guillaume Podrovnik. On verra demain Excursion en procrastination. C'est à voir ce soir. Et c'est en ligne depuis le 4 décembre sur Arte TV. Merci d'être venu dans ce studio.
Merci beaucoup.
Guillaume Podrovnik, nous approchons de la fin de l'émission. C'est l'heure pour moi d'aller chercher le dernier vinyle. Allez, j'appelle mon ascenseur. Ah mais oui, c'est vrai, c'est l'ascenseur de l'avant. Il en reste encore à ouvrir. Bon, ouvrons celui du 11. Bah, y a rien. Ah mais oui, c'est un ascenseur qui procrastine. Bon, attendons demain, écoutons In a Hurry, un des deux morceaux inédits de Paul McCartney.
Always in a hurry, never took the time to look around. She was always one to worry and fret, staring at the ground. Every minute she'd be rushing, someone always breathing down her neck. Felt like everyone was pushing her down, keeping her in check. How could she leave? She's gotta stay. Somebody has to sit and wait. Deep in a dream, she is a voice. It's not too late to celebrate. Uncontrollable laughter.
Not too late to celebrate.
Running round in her head.
No one said you got to run.
This is what she was after.
Not too late to celebrate.
Not too late. Not too late.
In a Hurry, c'est un des deux titres inédits dévoilés il y a quelques jours par Paul McCartney. Et c'est pas un titre de procrastinateur, ça. Hein. Bon, alors merci Guillaume Podrovnik. On verra demain Excursion en procrastination. C'est en ligne sur arte.tv. Et je rappelle notre autre pop prescription du jour, Jumanji Next Level, qui est actuellement en salle. Merci à l'équipe de Pop Pop Pop. Ghislain Fontanus à la réalisation, à la technique Johanna Gravic. Aurélien Esvan, notre rédacteur en chef. Claire-Sophie Collet et Simon Resta, nos attachés de production. À la programmation musicale Djoubaka et Raphaël Harry, notre stagiaire. Demain dans Pop Pop Pop, l'auteur du nouveau Blueberry, Christophe Blain, et lui. James Elegance, j'adore ce nom, qui sera sur la scène de Pop Pop Pop. Mais avant demain, si vous avez aimé l'émission, retrouvez-la sur franceinter.fr. Si vous êtes un Jones 3.0, un Yeuv ou une Yeuvesse à la pointe, suivez-nous. Plutôt comme disent ceux qui feront demain des tutos procrastination sur YouTube. Eh ben, ils disent rien, justement. Mais ça, ça veut dire abonnez-vous à notre podcast. Et suivez-nous sur les internets, comme disent les millennials, 3615 Pop 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 sur Instagram et Twitter.